Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur SBS French et merci de nous écouter. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble en ce mardi 11 mars 2025. On commence avec le journal. À la une de l'actualité, vers un cessez-le-feu partiel entre la Russie et l'Ukraine, c'est peut-être ce qu'il va ressortir aujourd'hui d'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Les deux hommes se rencontrent en Arabie Saoudite. Plus d'électricité, plus de carburant et bientôt peut-être plus d'eau courante, la situation est critique dans la bande de Gaza. Ce 11 mars marque le 5e anniversaire de l'épidémie de Covid-19. Et enfin, nous allons découvrir la nouvelle playlist personnelle et surprenante du roi Charles III. Et on commence ce journal avec l'actualité du monde et les pourparlers attendus aujourd'hui en Arabie Saoudite entre l'Ukraine et les États-Unis. Si ce n'est pas la première fois que Riyad joue les médiateurs dans la guerre depuis 3 ans, eh bien c'est la première fois que Washington et Kiev se reparlent depuis la rencontre tumultueuse il y a 10 jours entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. A priori, le président ukrainien compte bien proposer une trêve dans les airs et en mer pour convaincre Washington de maintenir son aide militaire malgré une série de bombardements mortels ces derniers jours. Volodymyr Zelensky a encore répété via le réseau social Telegram que l'Ukraine recherchait la paix depuis la première seconde de la guerre et d'après Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, les États-Unis seraient intéressés par cette possible proposition d'un cessez-le-feu partiel. Donald Trump lui-même, qui ne se rend pas en Arabie Saoudite, on le précise, souhaite voir des résultats à la suite de ce rendez-vous.
These are big meetings coming up, as you know, in Saudi Arabia, which is going to include Russia. It'll be Ukraine. We'll see if we can get something done. But you get something done. A lot of people died this week, as you know, in Ukraine. Not only Ukrainians, but Russians. So I think everybody wants to see it get done. We're going to make a lot of progress, I believe, this week.
Le point sur l'actualité au Proche-Orient à présent, fin de l'opération militaire en Syrie contre les fidèles de Bachar al-Assad. Les affrontements ont fait plus de 1500 morts ces derniers jours, les deux tiers étant des civils majoritairement issus de la minorité alaouite, la minorité de Bachar al-Assad. Amnesty International appelle Damas à autoriser une enquête internationale sur ces violences. Syrie toujours et le nouveau pouvoir de Damas annonce un accord avec les forces kurdes pour intégrer toutes les institutions civiles et militaires de la minorité au sein de l'État syrien. Cette entente garantit l'ensemble des droits constitutionnels à la communauté kurde. En contrepartie, les régions contrôlées par les Kurdes dans le nord-est du pays reviennent sous l'autorité de Damas. Depuis le début de la guerre en 2011, on rappelle que le Kurdistan syrien se gérait de manière autonome. L'armée israélienne a, elle, de son côté, effectué une frappe aérienne contre 3 combattants qui, selon elle, enfouissaient un engin explosif dans le centre de la bande de Gaza, alors qu'une trêve, certes fragile entre Israël et Hamas, mais tout de même est en vigueur depuis bientôt 2 mois. En parallèle, Israël a stoppé la distribution d'électricité, on le disait en titre, dans le territoire palestinien, en plus de la privation de carburant, faisant craindre de graves conséquences pour la population civile à Gaza, qui pourrait dans les prochains jours ne plus avoir accès à l'eau potable. À Genève, les précisions de Jérémy Lanche pour Radio France Internationale.
Sans électricité et avec le carburant bloqué, les dernières usines de dessalement d'eau, les centres de santé, les boulangeries de Gaza risquent de fermer, alerte le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. La principale usine de dessalement fournissait de l'eau à 600 000 personnes à Gaza, rappelle Philippe Lazzarini, le commissaire général de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.
L'électricité n'a été rétablie qu'il y a quelques jours. Jusqu'à maintenant, les gens utilisaient plutôt des générateurs au diesel pour en avoir. L'impact d'un blocus de l'aide alimentaire m'inquiète beaucoup plus, ou si l'eau était coupée. Et de fait, il n'y a plus de nourriture ni d'essence qui rentre à Gaza désormais.
There is no food or fuel entering into the Gaza Strip anymore.
Et en parallèle, Tel Aviv tente à tout prix de convaincre des agences de l'ONU de prendre le relais de l'UNRWA, officiellement banni par Israël. Une tentative vaine, explique Philippe Lazzarini.
Other agencies can bring trucks.
D'autres agences peuvent faire rentrer des camions d'aide à Gaza, mais la vraie question, c'est qui va fournir des soins médicaux, de l'éducation. Et si je nous compare, les autres agences de l'ONU ne pèsent pas plus de 5% de notre présence.
Et une présence réduite comme peau de chagrin à cause des lois anti-UNRWA passées au Parlement israélien au début de l'année. Depuis la fin janvier, l'agence ne peut plus compter que sur son personnel palestinien, encore plus soumis aux intimidations et aux menaces de l'armée israélienne, d'après Philippe Lazzarini.
Les négociations sur la poursuite du cessez-le-feu, extrêmement fragiles à l'heure actuelle, sont toujours en cours, en ce moment même, à Doha. Trois actus mondes. En bref, une situation extrêmement inquiétante au nord de l'Angleterre. Une collision entre un pétrolier et un cargo a fait 32 blessés et provoqué des incendies et une fuite de kérosène. Un membre de l'équipage est toujours porté disparu, mais après des recherches intensives, il n'est désormais plus recherché et donc présumé mort en mer du Nord. L'ONG Greenpeace se dit extrêmement préoccupée par les multiples risques toxiques. Le cargo transportait en effet une quantité non déterminée d'alcool et 15 conteneurs de cyanure de sodium, un gaz inflammable et extrêmement toxique s'il était inhalé ou ingéré. Pour l'Organisation maritime internationale, la priorité pour l'heure est de lutter contre l'incendie qui s'est propagé. La rapide descente aux enfers de Tesla, si son grand patron Elon Musk garde le sourire dans le bureau ovale, eh bien l'action du constructeur automobile pionnier des véhicules électriques a plongé, elle, de plus de 15% hier à $241.30. Cette chute déjà historique en tant que telle est encore plus impressionnante si on regarde à plus long terme. Depuis décembre, soit depuis l'élection de Donald Trump, Tesla a vu sa capitalisation boursière divisée par deux. C'est plus de $900 milliards qui sont partis en fumée. Et aujourd'hui marque le 5e anniversaire de l'épidémie de Covid-19. C'était le 11 mars 2020 que l'Organisation mondiale de la santé déclarait officiellement la crise du coronavirus comme pandémie mondiale. L'OMS estime que près de 15 millions de personnes ont été tuées soit par le Covid, soit par son impact sur les systèmes de santé totalement débordés à travers le monde au cours des deux premières années de l'épidémie. On continue avec l'actualité en Australie à présent et 14 nouvelles personnes ont été inculpées pour des actes antisémites. On écoute le premier de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns.
This is unprecedented in many respects. You're talking about a series of violent attacks in New South Wales designed to sow fear and terror in the community as well as anxiety amongst large sections of the community. To get to the bottom of the conspiracy was an enormous police inquiry and investigation. And rather than me standing here saying there's been a major breakdown, it's the exact opposite. This has been good police work.
Au total, ce sont 29 personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de la Strike Force Pearl, un groupe de travail créé en décembre dernier pour lutter contre les infractions antisémites en Nouvelle-Galles du Sud. Après le passage du cyclone Alfred, l'heure est à la reconstruction du côté de la Nouvelle-Galles du Sud. Il n'y a plus d'appel à évacuation, le niveau des rivières baisse et les résidents peuvent rentrer chez eux, ont déclaré les autorités. Mais attention, avec prudence.
Returning safely is critical, so you need to be aware that floodwaters, both riverine and flash flooding, can cause risk to your home, travelling to your home, and also once you reach your home. So floodwaters can have contaminants, they can have snakes and vermin that can actually be transported within the rivers, there can be debris, but also electrical hazards. So if your home or premise has been impacted by floodwaters, it's important that you make sure that it is safe.
Voilà, c'était un membre des services d'urgence de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Dans le Queensland, le temps est aussi à la réparation. 75% des foyers ont pu récupérer l'électricité. On rappelle qu'au total, ce sont près de 330 000 foyers qui en étaient privés. Et enfin, on termine ce journal avec une information qui prête à sourire. La nouvelle playlist du roi Charles III, qui, on l'apprend, est fan de Kylie Minogue, notre Australienne, et notamment de sa chanson Locomotion. L'Australienne lui avait fait forte impression en venant chanter en 2012 pour le Jubilé de Diamant, et le roi, prince à l'époque, ne l'a pas oublié et l'a donc intégré à sa playlist.
Kylie Minogue came to St James's Palace to perform this song in 2012, in advance of the Diamond Jubilee visit to Australia. We had a large reception for Australians in the United Kingdom, and as Kylie is an ambassador for my now King's Trust, she very generously agreed to come and perform. The song is The Locomotion. This is music for dancing. it has that infectious energy which makes it, I find, incredibly hard to sit still.
Voilà le roi Charles III qui manifestement ne peut s'empêcher de danser sur du Kylie Minogue, mais aussi sur du Bob Marley, Beyoncé ou encore Michael Bublé. Allez, on revient avec un point sur la météo du jour. Il fait 34 degrés à Perth, 30 à Adélaïde, 34 à Melbourne, 21 à Hobart, 29 à Canberra, 25 à Sydney, 28 à Brisbane, 32 à Cairns et enfin compté 33 degrés à Darwin. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de votre journal d'information. Mais surtout, restez sur SBS French. Nous n'avons pas fini. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. On passe au journal des sports. Il vous est présenté par Grégory Pless.
Le magazine des sports, c'est parti et on commence tout de suite avec du football. En Ligue 1 ce week-end, Nice n'est pas parvenu à se hisser à la deuxième place du classement, freiné dans son élan par l'Olympique Lyonnais qui l'a emporté chez les Niçois 2-0. Et ce, malgré que leur entraîneur Paolo Fonseca ait passé le match en tribune suite à une lourde suspension de 9 mois due à un violent mouvement de colère contre un arbitre tout récemment. Des Lyonnais diminués donc, mais qui ont su se montrer efficaces selon le défenseur Moussa Niarate. Il s'exprime au micro de DAZN.
C'est un peu ça, mais c'est pas forcément volontaire. Si on pouvait accélérer dès les premières minutes, on le ferait. Mais en face, à chaque fois, on a des belles équipes. Nice, je crois, ils étaient invaincus à domicile. Donc on a plutôt bien géré défensivement en première, mais on était venu pour gagner parce qu'on savait qu'en gagnant, on faisait une belle opération. On savait qu'on recollait à quelques points devant et on sait que la semaine prochaine, il y a des concurrents directs qui ont des très gros matchs. Donc c'est une belle opération, magnifique opération.
L'OL se retrouve ainsi 6e, juste devant Strasbourg, qui l'a emporté pour sa part face à Nantes 1-0. Brest se place en 8e position après sa victoire 2-0 contre Angers. Et Auxerre décroche une victoire 2-0 face à Reims. En revanche, Le Havre reste en zone de barrage après un match nul 1-1 contre Saint-Étienne. Une 25e journée difficile également pour l'Olympique de Marseille, battu par Lens 1-0. C'est Neil El Aynaoui qui a apporté la victoire et du réconfort au sang et or, rompant ainsi un cycle de 4 défaites d'affilée. Le buteur lensois espère ainsi relancer son équipe pour le reste de la saison.
On a fait un match de bonhomme, on avait pas mal de blessés, pas mal d'absents, et en fait c'est tout un groupe en fait. On voit que c'est pas que les 11 qui jouent, c'est tout un groupe, c'est toute une famille. On a fait le match qu'on voulait faire et ouais, franchement... C'est de bon augure pour la suite. Venir gagner ici, c'est pas rien. Donc faut vraiment qu'on savoure cette victoire. Et voilà, qu'on prenne tout le positif qu'on a fait. Et c'est la dernière ligne droite. Et voilà, prendre, comme j'ai dit, tout le positif et aller de l'avant maintenant.
Les autres résultats du week-end, c'est le Paris Saint-Germain qui s'est largement imposé 4-1 face à Rennes. Le club parisien conforte ainsi sa place de leader. Lille l'a pour sa part emporté 1-0 sur Montpellier. En première ligue, la série noire continue pour Arsenal avec un 3e match d'affilée sans victoire. Ils ont désormais 15 points de retard sur Liverpool après un match nul 1-1 concédé à Manchester United sur la pelouse d'Old Trafford. Une véritable frustration pour l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, qui estime que ses joueurs ont pourtant été supérieurs.
Aujourd'hui, notre efficacité dans les 25 derniers mètres n'a pas été à la hauteur, on le sait. On a fait beaucoup de choses qu'il fallait faire pour espérer gagner à Old Trafford, mais à l'arrivée, il faut réussir à concrétiser quand on domine à ce point. On n'y est pas parvenu et il a ensuite fallu renverser la situation. On sait à quel point c'est compliqué ici, donc il a fallu s'exposer et prendre des risques et on aurait même pu perdre ce match dans les dernières minutes.
Liverpool, justement, l'avait emporté 3-1 face à Southampton grâce notamment à un doublé sur pénalty de Mohamed Salah qui en est ainsi à 27 buts cette saison. On fait un tour maintenant en Espagne. Égalité parfaite entre le Real Madrid et le FC Barcelone après une victoire 2-1 des Madrilènes face au Rayo Vallecano grâce à des buts de Kylian Mbappé et de Vinicius. La Maison Blanche compte désormais 57 points, tout comme son rival catalan. L'Atlético Madrid clôture pour sa part le podium à un point seulement derrière les deux leaders après une défaite ce week-end contre Getafe. Un mot de rugby maintenant, et l'Angleterre vient de prendre une sérieuse option sur le tournoi des Six Nations après une victoire convaincante 47-24 face à l'Italie. Son prochain match, la semaine prochaine face au Pays de Galles, sera décisif. De quoi inquiéter le 15 de France qui, malgré une victoire très convaincante la veille, 42-27 face à l'Irlande, leur permettant de prendre la première place. La France affrontera la semaine prochaine l'Écosse sans son capitaine Antoine Dupont qui souffre d'une rupture des ligaments croisés, une blessure due à un balayage des joueurs irlandais. À l'issue du match, le sélectionneur Fabien Galthié ne masquait pas sa colère.
Il y a la suspicion d'une blessure assez grave au genou. On a cité des joueurs à comparaître devant la commission, Tackburn et Porter. On a cité aussi des joueurs à comparaître devant la commission sur Pierre-Louis Barassi. Nash, il faut savoir que Pierre-Louis Barassi n'a pas répondu favorablement au protocole. Donc là aussi, il y a des images. Donc on a cité. Nous, les joueurs ne rentrent pas. De l'autre côté, les joueurs rentrent. Donc on veut comprendre pourquoi. Donc on est sur cette question-là, on est en colère.
Ce week-end a également été marqué par plusieurs épreuves de cyclisme, notamment les Strade Bianche en Italie. Et côté femmes, c'est la néerlandaise Demi Vollering qui a emporté cette première course de la saison à l'issue d'un duel acharné face à son ancienne entraîneur Anna van der Bruggen. Une victoire marquante pour la coureuse car il s'agit de la première sous la couleur de sa nouvelle équipe FDJ Suez. C'est ce qu'elle a expliqué en conférence de presse après sa victoire.
I mean, it's not only being eager to beat Anna, but I just really wanted to win this one. So if it was Elisa Longobardini, I would have the same feeling. I'm just very, very happy I could finish it off for the team because this was our first team goal. And to win it like this is amazing because the whole team kept believing, kept fighting because in the beginning of the race, we were not so lucky. Evita crashed, but she kept fighting very long to come back.
Côté homme, c'est Tadej Pogacar, l'actuel champion du monde, qui s'est imposé pour la troisième fois sur les Strade Bianche. Une victoire d'autant plus impressionnante qu'il a lourdement chuté à 50 km de l'arrivée. Et puis, de l'autre côté des Alpes, c'est le sprinter Tim Merlier qui a emporté sa deuxième victoire d'affilée sur le Paris-Nice. Une victoire que savoure le coureur belge, d'autant qu'il ne pense pas qu'il gardera longtemps le maillot jaune. On l'écoute.
I think it's the first time in my life, in my cycle career, I win in the leader jersey, or I don't remember anymore.
Tomorrow time trial, trying to keep the jersey.
Of course we're gonna try, but it'll be difficult, I think.
Et je vous rappelle que vous pouvez suivre cette course, le Paris-Nice, en direct tous les soirs sur SBS jusqu'au 16 mars. À jeudi pour un nouveau point complet sur les sports.
S'était éteint, il s'est endormi peu à peu sans même que l'on voit. Nous étions si beaux dans le même convoi. Et c'est si dommage que l'on se
tente essayer de te faire sortir de ma tête. Mais je pense qu'à présent c'est mort.
C'était la toute dernière chanson d'Opinard, ça s'appelle Le Feu, ça vient tout juste de sortir et vous la découvrez sur SBS French. Allez, on passe à la semaine politique, c'est signé Patricia Meunier.
«
Aujourd'hui, dans la semaine politique en Australie, nous revenons sur le cyclone Alfred. Au final, il y a eu moins de dégâts que prévu. D'ailleurs, le cyclone n'en était plus un au moment où il a touché les côtes australiennes. Reste que la situation dans le Queensland et dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud reste très inquiétante en raison des risques de crues subites et des vents très violents qui déferlent sur toute la région suite au passage donc de l'ex-cyclone Alfred. On décompte à l'heure où on se parle toujours plus de 300 000 foyers privés d'électricité. On fait le point tout de suite avec Patricia Meunier.
Ils sont rares en Australie. Le dernier cyclone est passé il y a 50 ans. Cette fois-ci, Alfred a affecté plus de 4 millions de personnes sur sa trajectoire, soit une bande côtière densément peuplée de 300 km, à cheval sur la frontière entre l'État du Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud. Rétrogradé en dépression tropicale, le cyclone a soufflé avec violence sur la côte est australienne, déracinant de nombreux arbres. Ainsi, le passage d'Alfred a engendré d'importantes coupures d'électricité dans les deux États. Dimanche dernier, près de 330 000 foyers restaient privés de courant. L'électricité sera difficile à rétablir parmi les principaux obstacles, la montée des eaux, la chute d'arbres et les glissements de boue. De plus, la tempête a provoqué de fortes précipitations dans cette région, faisant gonfler les rivières. De nombreuses alertes aux inondations ont été déclenchées. La situation reste très grave, selon Chris Min, le premier de la Nouvelle-Galles du Sud.
I want to make it clear that we're not out of the woods yet. We're watching very closely the river systems in the northern rivers. There's still a lot of rain out there. There's still a lot of full rivers, swollen rivers. Although there are obviously some encouraging signs, and the latest information out of the Wilson is obviously encouraging. It's also important to note that the hazardous weather watch in many coastal communities has been lifted as a result of the cyclone moving through.
Les fortes pluies et les crues importantes des cours d'eau se poursuivront cette semaine. C'est ce qu'a annoncé le Bureau météorologique du Queensland. Le corps d'un homme de 61 ans a été retrouvé samedi après que son 4x4 ait été emporté par les flots dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud. Un accident impliquant deux camions de l'armée en mission de secours sur la côte a entraîné l'hospitalisation de 12 d'entre eux. Deux soldats sont dans un état critique. On écoute le Premier ministre australien Anthony Albanese.
For the extraordinary members of the Australian Defence Force and their loved ones, there are no easy days. Every day could bring danger, every day carries risks. And yet they step up and face them for us, the Australian people, for our nation and for their fellow Australians. These men and women are heroes who are on their way to help people in need. They were doing this at a time when some of their own families were bearing the brunt of Alfred.
Les services d'urgence du Queensland ont reçu plus de 1000 appels dimanche. Le premier de cet État, David Crisafulli, a rappelé aux habitants d'être prudents.
We're going to continue to see that rainfall in the short term, and it is important that we continue to do the things that have seen the so far that response keep people safe, which is always the most important thing as we do.
Pendant la crise, le gouvernement du Queensland a travaillé en très étroite collaboration avec le gouvernement fédéral pour mettre sur pied la distribution d'aide financière aux victimes de dégâts naturels.
Paris, 48 degrés nord, 2 degrés est. 5h50, vous quittez votre appartement. Il fait encore nuit. Les néons claquent sur vos rues Victoria. 17h50, 37 degrés sud, 144 degrés est. Melbourne.
Melbourne, cette magnifique ville, c'est d'ailleurs d'ici que nous vous présentons aujourd'hui cette émission, ces studios de Melbourne. C'était bien sûr Sophie Morin avec sa chanson Paris-Melbourne. Allez, un tout petit peu plus à l'ouest, on part à Adélaïde, là où le festival annuel bat son plein. Et d'ailleurs, pour y être allé ce week-end, je vous le conseille fortement, c'est vraiment vraiment très chouette. Et parmi les artistes présents, eh bien, il y a le trio d'Akali. SBS French les a rencontrés, interview.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
J'ai le plaisir de recevoir Fodela Sanadiabaté du trio d'Akali. Bonjour et bienvenue sur SBS French, Fodé.
Merci, bonjour à vous aussi.
Parlez-nous de votre participation au Festival Adélaïde et au WOM Adélaïde.
Bon, pour le Festival Adélaïde, Festival Adélaïde, c'est notre première fois avec Trio Dakali. Pour le Festival WOMAD, sera notre deuxième passage avec Trio Dakali.
D'accord.
Donc là, on est là cette semaine avec beaucoup d'artistes et on va faire beaucoup de collaborations. Ça, c'est le Festival Adélaïde. Et la semaine prochaine, le lundi ou mardi, ce sera le Festival WOMAD.
WOMAD Adélaïde.
Et ouais. Voilà, donc nous allons se produire là-bas aussi avec, pour les deux jours, on va jouer avec 10 groupes.
10 groupes aussi.
Mais bon, malheureusement, je n'arrive pas à garder derrière. Donc, c'est quelque chose qui est, c'est une créativité.
D'accord, ok.
C'est une créativité. On a des programmes, mais franchement, j'ai pas le nom. On m'avait donné tous les noms, mais je n'arrive pas à garder les noms dans ma tête. C'est toujours une très grande honneur pour nous, puisque nous, on fait la vieille musique, de très vieille musique de la musique mandingue. Donc, nos instruments, c'est des instruments plus vieux. Donc, on a cette chance-là, chaque passage partout où les gens sont vraiment émerveillés, vraiment les publics seront toujours enchantés d'écouter les balafons, que ce soit le ngoni. Donc, comme nous, on a la chance d'avoir la vieille culture, qui est culture mandingue, nous utilisons les instruments qui sont les plus vieux instruments de l'Empire du Mandé. Donc, c'est une très, très grande opportunité pour nous aussi vraiment d'être à chaque passage partout dans le monde qu'on a le succès. Cette fois-ci, la première fois, on a eu vraiment du succès. Tout le monde était en santé. Tous ceux qui ont eu la chance de venir nous regarder jouer, assister à notre concert, ils étaient toujours contents puisque notre premier concert, déjà, on a fini plus de 200 et quelques CD, on a plus vendu en 40 minutes. Donc, cela prouve que le public a beaucoup aimé.
Oui.
Voilà. Donc, le lendemain, les gens demandaient déjà le CD, il y avait plus de CD. Bon, cette fois-ci aussi, c'est une très grande chance pour nous puisqu'on vient de faire un album solo de Trio Dakali qu'on espère vraiment, ce sera notre tout premier concert de nouveau CD. Et avec des nouvelles chansons. Wow. Voici le CD, qui s'appelle Pagola.
Votre groupe, Trio Dakali, vous êtes 3 Maliens, mais vous venez de 3 régions différentes. Et vous, donc, vous incarnez la culture mandingue, et vous jouez 3 instruments différents. Parlez-nous de vous 3 et de la culture mandingue.
On dit la culture mandingue, on parle beaucoup du Mali et de la Guinée, principalement.
Ouais.
Puisque c'est les 2 pays qui sont des poumons de la musique mandingue. Donc, moi, j'ai la chance, vraiment, Dieu m'a donné cette chance de travailler avec les 2 jeunes. Dieu m'a donné la chance de travailler avec leur papa. J'ai travaillé avec le papa de Madou qui joue la basse ngoni. J'ai travaillé plusieurs années avec le père de Awa Kassemadi Diabaté qui est paix à son âme Kassemadi Diabaté. Et j'ai même travaillé avec la fille de Awa Kassemadi, sa première fille. Il s'appelle Rokia Okuyate, qui est une très grande chanteuse actuellement au Mali. Et je voyage avec elle à Cuba. Donc moi, j'ai la chance de faire le projet avec leur papa et maintenant, je suis avec les jeunes. Maintenant, je peux dire, d'une part, il y a l'éducation d'abord, puisque notre culture, ça demande beaucoup d'éducation, puisque nous sommes des griots. Avant, la société prenait l'exemple pour nous. On dit que, lui, il est poli comme un enfant de griot. Ou lui, il est sage comme un enfant de griot. Donc, nous sommes des exemplaires. Comme c'est nous qui sommes là à intervenir s'il y a des problèmes, c'est à apaiser si s'il y a des conflits, c'est nous qui sommes là pour intervenir. Donc normalement, on est toujours au milieu, on ne peut pas être avec quelqu'un. Malheureusement, c'est en train de changer actuellement, mais le rôle de griot, on doit être, je ne sais pas comment dire ça en français, transparent. S'il y a des problèmes familiaux, c'est nous qui sommes là pour intervenir. S'il y a des politiciens, si ça ne va pas, c'est nous qui sommes là à intervenir. Sur scène, moi et les deux jeunes, on arrive vraiment à partager ça. On arrive vraiment à montrer. Surtout quand on commence à jouer, tout de suite, c'est la joie qui arrive. La différence d'âge qu'il y a entre moi et eux, tout cela, ça, on le voit plus. Donc, ça, c'est une grande chance entre nous trois, puisque vraiment, il y a la complémentarité.
Entre vous trois, il y a une grande complémentarité, mais comment est-ce que vous percevez, donc, comment est-ce que le public malien, donc, ou guinéen, surtout parmi les jeunes, comment est-ce qu'ils perçoivent ces traditions millénaires et comment est-ce que, parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution des technologies et tout ça, les jeunes ne sont plus tellement connectés. On le voit dans plusieurs pays. Les jeunes sont plus influencés par tout ce qui est brillant, technologie et tout ça. Et ils ont tendance à délaisser leurs traditions ancestrales. Est-ce que vous partagez cette perception ou pour vous, la tradition mandingue est bien enracinée et vraiment en plein essor parmi les jeunes?
Merci pour cette belle question. La preuve est que moi, j'ai créé une société, une association, puisque comme vous dites, c'est vrai, actuellement, la musique traditionnelle est beaucoup, beaucoup dominée par l'électromusique. Actuellement, les jeunes ont tendance vraiment à laisser la musique traditionnelle. Même surtout mon instrument qui est le balafon. Parce que c'est un instrument où on peut pas mettre des effets comme quelques instruments comme la kora, on peut mettre des effets, essayer de rassembler comme la guitare. Mais ça reste toujours un instrument faible par rapport au piano ou bien des guitares. Donc, on a cette influence-là qui est vraiment en train de nuire, qui est en train de détruire la musique traditionnelle actuellement. Donc, c'est pour cela, moi, j'ai monté une association, essayer de tenir les jeunes, les plus talentueux, essayer de leur expliquer. Tu fais le rap, tu fais quoi que ce soit, tu peux être meilleur artiste quelques années, mais à un moment, il y a quelqu'un d'autre qui va te détrôner, tu vas, voilà. Donc, en leur expliquant que quand, regarde, depuis nos ancêtres, les balafons, la kora, les ngoni sont là. Et c'est des instruments qui ont toujours, quand on les utilise partout, un peu partout dans le monde, les publics sont toujours enchantés. Nous, on essaie de leur expliquer l'importance de la tradition. C'est vrai, les jeunes, voilà, ils sont dans leur monde actuellement, mais moi, je pense que je leur explique tout le temps de garder la tradition, parce que c'est quelque chose qui est indéfini. Donc, c'est ce combat-là qui, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile, puisque beaucoup des enfants aujourd'hui préfère jouer des instruments qui sont l'influence. Mais je dis, oh, ok, voilà, c'est ça, mais vous avez du mal à quitter en Afrique. Et nous, avec nos instruments maintenant qui sont en voie de perdition en Afrique, surtout au Mali, en Guinée, nous, on a la chance toujours quand on va en Europe, on joue devant les grands publics, ils ont toujours tendance à encore plus aimer. Donc, au moins, j'essaie d'expliquer les enfants, disent que voilà, quel que soit le temps, il faut essayer de garder la tradition. C'est quelque chose qui est vraiment vital pour tout le monde. Pour garder ton identité. Mais c'est vrai, c'est pas du tout facile. Moi, je joue de balafon.
Et cet instrument est iconique de la région. Pas facile à apprendre. Comment est-ce que vous l'avez appris et comment est-ce que vous intégrez d'autres publics dans cette passion, dans la connaissance de cet instrument mythique, multicentenaire?
Nous, on peut même pas expliquer comment nous, on a appris la musique, puisque nous, on est né dans la famille de la musique. Exemple, moi, mon père, il joue le balafon. Mon grand-père joue le balafon. Mon arrière-grand-père joue le balafon. Donc, c'est comme ça, le père et fils, et père et fils. C'est comme tout le monde peut devenir artiste. Tout le monde peut devenir artiste, mais jamais on devient jamais un griot, on est griot. C'est dans le sang. Pour nous, on a appris la musique dans la famille. Donc, depuis à l'âge de 5 ans, je connaissais bien l'Afrique avec la pauvreté. Moi, mon père n'avait rien. Il avait quelque chose puisqu'il arrivait vraiment à nous nourrir, à prendre soin de nous. Mais je veux dire, comme les autres enfants en Europe, où tu as tous les jouets, t'as vu, quand tu rentres dans ta chambre, tout ce que tu peux pour jouer. Nous, il n'y avait pas ça. Donc, le seul jouet qu'on avait, c'est le balafon. Quand on pleure, à finir, ils vont nous montrer le balafon. Ils nous donnent des baguettes. On tape comme ça quand tu as le son. Voilà, tu commences à oublier de ton problème. Donc, même mes enfants actuels, c'est comme ça. Donc, moi, j'ai commencé à jouer du balafon depuis à bas âge, depuis à l'âge de 5 ans. Je vis dans la maison où tout le monde jouait du balafon. Awa aussi, c'est comme ça. Awa aussi, elle est chanteuse, puisque son papa était chanteur. Mamadou, il c'est un joueur de ngoni, puisque son papa aussi était c'est un joueur de ngoni. Donc, tout le monde apprend l'instrument qui est dans la.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/French.
C'est pas moi qui sers autour de ton cou. C'est dans l'atmosphère. C'est bien fait pour nous. Si nous manquons d'air autour de ton cou, c'est comme une vipère. De son trou, trop de laisser faire.
La voix de Stéphane est chère sur les ondes de Radio SBS avec sa chanson sortie en 2022 autour de ton cou. Avis aux francophones, messieurs, dames, c'est le French Film Festival en Australie. De magnifiques films au programme. On en discute avec Thomas Feldstein, le directeur de l'Alliance française de Perth.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir de retrouver Thomas Feldstein, qui est le directeur de l'Alliance française de Perth. Bonjour à vous.
Bonjour Jean-Noël et bonjour à vos auditeurs ou auditrices.
Thomas, on passe au mois de mars, un save the date pour le jeudi 13 mars pour lancer la 36e édition de l'Alliance française French Film Festival.
Oui, c'est ça déjà. Donc l'année dernière, on a fêté les 35 ans. Cette année, donc 36e édition du French Film Festival. À Perth, donc à partir du 13 mars. Je signale que Perth cette année est unique. Bon, Perth est toujours unique, évidemment, mais cette année encore plus, puisque Perth c'est la seule ville qui va profiter d'un programme complet du festival pendant 5 semaines. Alors qu'en général, dans les autres villes d'Australie, c'est 4 semaines, plus quelques jours supplémentaires ou un programme pas tout à fait complet sur les derniers jours. Là, nous, on a 5 semaines de programme complet. C'est un petit peu un test, donc on est curieux de voir si les spectateurs sont au rendez-vous jusqu'au bout. Et en effet, le jeudi 13 mars, donc ce sera l'opening night. Comme d'habitude à Perth, on fait les choses en grand avec 3 lieux différents. L'opening gala qui se fera à Luna Niderville, au cinéma Luna Niderville. Et puis deux opening reception, l'une à Palace Rem Square dans la city, et l'autre au Luna on Essex à Fremantle. Et puis ensuite, on part donc pour 5 semaines, 42 films cette année, plusieurs soirées spéciales avec des projections uniques de films. Je pense comment Jane Austen a ruiné ma vie, qui sera projeté qu'une seule soirée. Je pense au film Emmanuel, qui sera projeté lors d'une soirée Oh là là à Palace Red Square, donc le vendredi 4 avril. Et puis en avant-première, première australienne évidemment, Le Comte de Monte Cristo, donc le samedi 15 mars dans 4 cinémas partenaires. Et plein d'autres événements, évidemment. Le traditionnel Test of Friends.
Ladies Night.
Voilà, la Ladies Night, bien entendu. Avec cette année encore une comédie, je pense, qui devrait plaire au public australien. Riviera Revenge, en français, N'avoue jamais. Qui est une comédie avec Sabine Azéma, Thierry Lhermitte et André Dussolier. Sur leur 60-70 ans quand même, hein, et qui rejoue la jalousie amoureuse. C'est vraiment très drôle. Ils ont une pêche, comment ces trois-là, c'est vraiment un très bon film.
Et puis peut-être Thomas, un mot sur les school screenings.
Oui, c'est la particularité donc du French Festival, hein, c'est de mettre en avant énormément d'événements pour les enfants, pour les scolaires. Donc les school screenings qui vont débuter pareil à partir du 13 avril. Donc là on a plusieurs films pour les petits, pour les moyens, pour les grands, école primaire et secondaire. Je pense évidemment au Comte de Monte Cristo. Je pense à Savage pour les enfants. Il y a des films qui sont pas dans le line-up complet, mais qui sont réservés aux enfants. Et donc les écoles partenaires, enfin les écoles de Perth, ont reçu des propositions pour pouvoir emmener leurs élèves voir ces films-là. Et puis surtout, nous on propose pour chaque film un kit pédagogique, donc un kit d'exploitation du film pour les enseignants, de manière à préparer la sortie scolaire et puis profiter après le film d'un travail en français, bien entendu, sur le film qui aura été vu.
Et puis vous avez aussi les corporate private screenings. Est-ce que c'est une nouveauté pour WA?
Alors on a lancé ça l'année dernière. Et en effet l'idée c'est de proposer donc à des entreprises, qu'elles aient un lien avec la France ou pas d'ailleurs, hein, de profiter du French Film Festival pour soit par exemple offrir à leur staff, à leur personnel une soirée détente, hein, une soirée team building avec un verre de vin, un bon film français, soit à leurs clients par exemple aussi une soirée un peu chic, une soirée marketing pour remercier les clients, par exemple, avec là aussi une soirée, un verre de vin, des canapés, un bon film français. Et donc, voilà, proposer ces soirées-là, proposer aussi aux entreprises d'utiliser le French Festival comme un moyen de récompenser leurs employés, leurs partenaires, en offrant des tickets de cinéma, par exemple. Bref, voilà, se saisir de cette opportunité, rappeler éventuellement leur petit lien avec la France pour certaines de ces entreprises, ou au contraire, jouer sur le chic à la française, s'ils n'ont pas de lien particulier avec la France, comment gratifier leurs clients, leurs partenaires, personnel de ce moment vraiment unique dans la vie culturelle de Perth.
Est-ce qu'il y aura d'autres projections de films dans d'autres villes de Western Australia?
Oui, nous renouvelons notre partenariat avec le BREC, le Bunbury Regional Entertainment Centre. Donc pour 4 jours de festival du 10 au 13 avril, et donc c'est une sélection de 8 films qui seront projetés au break pendant ces 4 jours, et on aura là aussi des séances pour les scolaires, on aura là aussi une opening night jeudi 10 avril au soir, et c'est vrai que ça avait bien marché l'année dernière avec plus de 1000 spectateurs en 4 jours, donc c'est surtout un partenariat vraiment très friendly, en tout cas très très, avec beaucoup de respect, beaucoup de presque d'amitié avec l'équipe du break là qu'on a développé. On est vraiment très heureux de renouveler ça cette année.
Et pour les gens qui nous écoutent, c'est probablement l'heure de faire les réservations dès maintenant.
Oui, oui, en effet. Donc, pour le French Film Festival, eh bien, ça y est, la billetterie est en ligne, asfrenchfilmfestival.org. Ça, c'est le site national. Et ensuite, il y a un onglet pour aller sur Perth. Pour le break, on n'y est pas encore, parce que ce sera au mois d'avril, mais on va bientôt ouvrir. Et puis, sont aussi distribués les fameux booklets, hein, les petits programmes papier, là, qui nous sont, toujours demandés, qui sont toujours, attendus par notre public, qui fait son choix, qui fait ses commentaires, qui nous demande notre avis aussi, hein. Moi, j'aime bien ce moment du French Festival parce que c'est un moment où on retrouve non seulement nos étudiants, mais aussi un public qui, évidemment, est francophile, et qui profite chaque année du festival et qu'on n'a pas l'habitude de voir en dehors du festival. Donc, c'est des moments vraiment sympathiques où on peut échanger, discuter cinéma, discuter culture française. Je suis toujours étonné de cette image positive qu'a la France et la culture française ici à Perth, avec plein de gens qui viennent nous rencontrer pour discuter du French Festival. C'est toujours très agréable.
Autre annonce que vous aimeriez nous dévoiler peut-être, Thomas?
Oui, deux choses, si je peux me permettre. La première, toujours sur le French Festival, c'est les Q&A, donc ces soirées spéciales Question and Answer, puisque cette année, à nouveau, on organise quatre séances. Donc l'idée, c'est d'ajouter d'avoir une valeur ajoutée, en fait, avec certains films, avec une intervention d'un spécialiste du sujet traité par le film. Je pense, par exemple, à la curatrice de la Western Australian Gallery, clairement l'Art Gallery de Perth, qui va présenter le film Nikki, sur le biopic sur Nikki de Saint-Phalle. Je pense à une intervention qu'on aura sur la fin de vie avec le film Become What Comes After, donc Le Dernier Souffle en français. Je pense à une soirée spéciale qu'on organise avec l'université de Curtin et l'association comme une association de culturelle mauricienne sur le film Ni chaîne ni maître. Voilà, donc on a aussi cette plus-value, hein, que le French Festival apporte. J'aime dire que on fait pas que projeter des films, mais on organise aussi avec les school screenings, avec les Q&A, avec les soirées spéciales, des événements bien particuliers sur ces films.
Merci à vous, Thomas, et bon festival du film français.
Oui, merci beaucoup, Jean-Noël, encore. Et puis, j'espère voir vos auditeurs, vos auditrices, dans les salles de cinéma. Et puis, qui n'hésitent pas à venir nous voir. On est toujours ravis d'échanger avec eux, avec elles, sur le film ou sur la culture française en Western Australia. On est toujours très, très contents de discuter avec notre public.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Dans une case, tu m'aimes. Dans une case et tu m'aimes. Entre les moches, les petits, les cons, les finis, les gris, j'atterris. Dans une catégorie.
Dans une case et tu m'aimes.
Dans une case et tu m'aimes.
Dans une case et tu m'aimes.
Dans une case.
C'était Mathieu Bougertz sur les ondes de Radio SBS avec cette chanson qui vient tout juste de sortir, Dans une case. Il est 13h58 sur Radio SBS, c'est l'heure du rappel des titres. Les États-Unis intéressés par une possible proposition ukrainienne de cessez-le-feu partiel à l'orée de discussions avec Volodymyr Zelensky en Arabie Saoudite. En Syrie, le président signe un accord avec les Kurdes pour intégrer leurs institutions autonomes à l'État. Situation critique dans la bande de Gaza où les privations de carburant et d'électricité pourraient bientôt aboutir à une pénurie d'eau douce. Et enfin, la descente aux enfers de Tesla. Le constructeur automobile a vu sa capitalisation boursière divisée par deux en seulement quelques mois. Voilà, c'est la fin de cette émission, messieurs, dames. Merci infiniment de l'avoir suivie. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez la retrouver en intégralité ou seulement les chroniques sur le site internet de SBS French, sbs.com.au/french, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est jeudi. Le journal sera présenté par Léo Roussel. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine, un très bon après-midi. Je suis ravie de vous avoir retrouvé et d'être de retour sur les ondes de Radio SBS. Bonne journée, messieurs, dames, au revoir.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.